Bonjour Dominique Estelle,
Bonjour.
merci beaucoup de me recevoir dans votre bureau de l'ENS. Nous parlons de votre nouveau livre qui s'appelle Nous sommes les autres animaux qui est paru l'année dernière aux éditions Fayard. Peut-être faudrait-il débuter par Descartes et Malebranche, par ce concept d'animal-machine, afin que l'on comprenne bien les enjeux de votre pensée. Pouvez-vous tout d'abord nous expliquer ce qui s'est passé là, avec Descartes et sa suite?
Alors l'idée que développe, enfin que suggère Descartes et que reprend Malebranche, parce que c'est surtout Malebranche qui va développer l'animal-machine, c'est que les animaux sont des espèces de petits automates mécaniques et qu'il n'y a pas d'âme en eux et que par conséquent on peut les traiter comme des machines. En gros, c'est ça l'idée fondamentale. Malebranche a une image forte qui est de dire si je donne un coup de pied à mon chien et qu'il crie, c'est pas qu'il a mal comme nous avons mal, c'est qu'il y a un dispositif qui est un mécanisme qui est un peu abîmé, qui est un peu rouillé et qui fait ce bruit. Donc c'est très intéressant parce que c'est une conception de l'animal qui est extrêmement mécaniste, d'une part, c'est-à-dire que c'est une machine et une machine mécanique, genre horloge, ça c'est important aussi. Et la deuxième chose, c'est que c'est une machine qui est très différente de ce que nous sommes, nous humains. Et ça, c'est assez révolutionnaire d'une certaine façon, puisque c'est, à ma connaissance, la seule culture qui établit une distinction aussi forte entre l'humain, d'une part, et les animaux, d'autre part.
Et donc, à partir de cette conception, va en découler pendant de nombreux siècles en Occident une certaine manière d'entrer en action, d'interagir avec toutes les espèces animales.
Oui, parce que du coup, puisque les animaux sont des machines, on peut interagir avec eux comme machines, non pas comme s'ils étaient machines, mais comme machines, c'est-à-dire les soumettre à des techniques zootechniques, c'est-à-dire les soumettre à des élevages intensifs, les soumettre à des asservissements divers, pouvoir les consommer sans aucune question et les traiter comme si c'était des machines.
Donc dans votre livre, Dominique Estelle, Nous sommes les autres animaux, nous avons affaire à d'autres conceptions, à d'autres concepts qui vont nous permettre d'envisager nouvellement, autrement, nos relations avec toute l'animalité, notamment avec cette notion de domestication. C'est l'un de vos premiers chapitres, Domestique-moi un lapin, je vous cite. En fait, la notion même de domestication devient problématique. Et il me semble plus juste de mobiliser une grille de lecture différente pour rendre compte de nos relations actuelles à l'animal. Je vois quatre catégories pertinentes pour comprendre ce qui se trame aujourd'hui entre l'homme et les animaux avec lesquels il partage son environnement. 1. L'exploitation industrielle. 2. La translocation collection. Quelque chose qu'on ne s'aperçoit pas, mais à quel point le trafic animal, ce que vous appelez translocation, est important et a un
En
effet.
termes de quantité et de ressources, c'est ce que rapporte le trafic animal est du même ordre de grandeur que le trafic d'armes ou le trafic de drogue. On ne se rend pas compte de ça.
C'est justement ce dont on s'aperçoit avec votre texte. Troisièmement, l'expérimentation plutôt à caractère scientifique sur les animaux. Et quatrièmement, la proximité signifiante. C'est-à-dire que vous élargissez ce concept de domestication à quatre manières, on va dire, d'interagir avec l'animal.
Oui, parce que la domestication est un concept qui me semble très insatisfaisant, précisément parce qu'elle recouvre des notions, enfin des phénomènes qui sont très différents. Ce qu'on appelle domestication en général, c'est le fait d'introduire des animaux dans les sociétés humaines et de développer des modes de vie avec ces animaux. Mais entre les proximités signifiantes que vous allez avoir avec votre chat domestique ou l'élevage industriel, on est aux antipodes.
Et vous allez utiliser un terme à deux reprises dans ce texte-là, le terme de pathologie pour catégoriser notre rapport à l'animal.
Oui, on a un rapport qui est fondamentalement pathologique, en ce sens qu'on le voit comme séparé de nous-mêmes, c'est-à-dire que nous ne sommes pas des animaux comme les autres animaux, et d'autre part d'avoir des comportements qui sont très choquants avec une majorité des autres animaux, y compris d'ailleurs dans les animaux signifiants, les animaux de proximité, ce que j'appelle l'animal peluche, c'est tout aussi problématique que l'élevage industriel.
Et donc il en ressort une sorte de pathologie qui est propre à notre manière de procéder.
On est extrêmement hostile dans notre culture, on est extrêmement hostile à l'animal. Et le fait même de développer des mouvements animalistes ou environnementaux comme ceux qu'on voit, qui sont d'une violence très grande pour certains d'entre eux, pas tous, mais pour certains d'entre eux, montre le rapport déjà extrêmement délictueux qu'on avait avec les animaux. Il s'agit d'un retour, je ne dirais pas d'un retour du refoulé, mais d'un retour de quelque chose qui était jugé jusque-là implicite et pas problématique et qui est en fait terriblement violent. Il y a une violence formidable dans notre rapport à l'animal.
Si bien que vous en arrivez à la proposition que nous n'avons sans doute jamais compris ce que signifie domestiquer un animal.
Oui, je pense que là il y a un phénomène qui reste encore extrêmement flou, en particulier parce que la plupart des caractérisations qui sont données de la domestication sont unilatérales. C'est-à-dire que c'est toujours l'humain qui fait quelque chose à l'animal. Et je pense que la domestication, c'est un processus réciproque avec l'animal qui est aussi une part active dans ce processus. Je n'évoquerai pas nécessairement la Boétie avec l'asservissement volontaire, etc. Mais il y a un peu quelque chose de ça quand même. Il y a beaucoup d'animaux, en particulier nos animaux de proximité, chats ou chiens, qui se donnent du mal pour être domestiqués. C'est-à-dire qu'il y a une violence qui est faite contre eux, mais il y a également un assentiment de leur part et un assentiment très actif dans certains cas.
Alors, pour revenir à ce qui découle de Descartes, puis surtout de Malebranche, c'est aussi ce que, quand on a, comme moi, quand on n'est pas connaisseur et spécialiste, on se dit c'est l'animal-machine de Descartes, mais en fait, vous expliquez que Malebranche a eu un énorme rôle, sans doute plus important que celui de Descartes. Ce qui découle de cette pensée-là, c'est que la culture occidentale donc, a développé, comme vous l'expliquez, une pensée hostile à l'animal de façon générale. Et aussi, en découle un statut d'exception à l'humain. Alors, dans ce statut d'exception, on va rencontrer un terme, un concept, et vous lui jetez un sort, si je puis m'exprimer ainsi, c'est celui d'anthropomorphisme. Avec l'anthropomorphisme, vous parlez d'une notion de Franz de Waal qui s'appelle l'anthropodénie. Pouvez-vous nous parler de cette relation entre, d'une part, l'anthropomorphisme et de l'autre, ce que pourrait être l'anthropodénie?
Alors, l'anthropomorphisme, qui est une injure dans la bouche de la plupart des spécialistes du comportement animal et d'intelligence animale, c'est de voir dans l'animal non humain des caractéristiques qui ne peuvent être vues que chez l'humain. Avec le cercle vicieux fondamental qui est de dire si on le voit chez l'animal, c'est donc qu'il n'est pas seulement chez l'humain, mais si on dit qu'on le voit chez l'animal, alors on est caractérisé comme faisant une erreur méthodologique. Donc en fait, ce que ça veut dire, c'est qu'on ne peut pas voir chez l'animal des caractéristiques qu'on veut réserver à l'humain. Et l'anthropodénie de Deval, c'est Deval, donc il y a un primatologue néerlandais qui vit aux États-Unis. L'anthropodénie de Deval, c'est dire que on se donne beaucoup de mal pour ne pas voir des caractéristiques humaines chez l'animal. C'est-à-dire qu'il retourne, la difficulté en disant que quand on voit des caractéristiques de l'humain chez l'animal, ce ne sont pas des projections fantasmatiques d'abord, ou pas nécessairement, parce qu'il est très prudent aussi méthodologiquement. Ça peut l'être quelquefois, hein. C'est un peu le problème du démon. Hein. Le démon n'est pas toujours là, il est là quelquefois, et donc la question est de savoir quand. Donc les caractéristiques anthropomorphiques qu'on va voir, ou de ressemblance avec l'humain qu'on va voir chez l'animal, ne sont pas toujours fausses, mais elles ne sont pas non plus nécessairement toujours vraies. Et l'anthropodénie de Deval, c'est de dire que, en fait, même quand on les voit de façon flagrante, qu'on les met en évidence de façon flagrante, on est encore en train de le dénier. Et alors du coup, on est dans une situation, en fait, avec cette question d'anthropomorphisme, on est dans une situation qui est un peu paradoxale, parce que ça nous empêche de penser les rapports entre l'homme et l'animal, et les différences ou les similitudes entre l'homme et l'animal. Il ne s'agit pas de dire que l'humain, c'est exactement comme les autres animaux. Il s'agit de savoir en quoi il y a des proximités, en quoi il y a des différences. Mais si à chaque fois que vous voyez une proximité, vous êtes taxé d'anthropomorphiste, en fait, la discussion ne peut plus avoir lieu. Donc en fait, c'est intéressant parce que ce que ça montre, c'est que d'une certaine manière, la discussion elle-même, encore aujourd'hui, est problématique de la convergence, de la proximité de l'homme et de l'animal.
Et pour continuer sur l'anthropomorphisme, vous écrivez que l'ethnocentrisme pose plus de problèmes que l'anthropomorphisme. Donc l'anthropomorphisme pose un problème, vous le posez bien là, mais aussi l'ethnocentrisme. Et avec ce problème de l'ethnocentrisme, vous faites un parallèle avec ce qu'il s'est passé au XXe siècle, le regard des ethnologues, des anthropologues sur des peuples lointains et des peuples qui nous semblaient très étranges et pas familiers.
Oui, et puis surtout c'est l'ethnocentrisme, c'est des conceptions très occidentales de ce qu'est l'animal et le fait de ne pas se rendre compte que nos conceptions de l'animal sont très occidentales. Et refuser toute proximité de l'homme et de l'animal, et encore une fois, je n'assimile pas complètement ce qu'est l'humain avec les autres animaux, mais pas plus que j'assimile pas beaucoup d'autres animaux avec les autres animaux. Et là, c'est une nuance sur laquelle on pourra peut-être revenir, parce qu'elle est un peu délicate, mais absolument fondamentale. Les spécialistes de l'animal en Occident sont absolument convaincus que leur conception du monde, de l'animal, de l'humain, en fait, sont universelles. Alors qu'elles sont très ancrées dans une culture particulière. Pour la plupart des autres cultures, l'humain et l'animal s'entremêlent constamment. Nous sommes les seuls qui établissons une frontière aussi forte entre l'humain et l'animal. Et ce n'est pas une frontière naturelle, c'est en grande partie une frontière culturelle. Et on refuse de tenir compte en particulier des arguments, des éléments qui sont montré en faveur de cette proximité par des cultures non occidentales, en considérant que c'est du folklore. C'est-à-dire que la question du rapport de l'homme à l'animal est en fait une pensée dans une perspective qui est très, j'ai envie de dire, coloniale, pour utiliser un terme un peu à la mode. C'est-à-dire que nous sommes encore dans une perspective où nous, les Occidentaux, on sait mieux que les autres.
Et vous allez d'ailleurs plus loin, et c'est là où cette pensée de l'ethnocentrisme est très très féconde dans votre travail sur l'animalité. Je vous cite « Pourquoi les représentations de l'animal fournies par la science occidentale seraient-elles plus justes que celles de multiples traditions autour du monde ?» Et alors, vous continuez ainsi, « Les cultures les plus intéressantes, quand on prend au sérieux les proximités de l'humain et de l'animal, sont celles dans lesquelles on trouve des animaux qui ont la réputation d'avoir été des tuteurs pour l'humain. » Qu'est-ce que ça pourrait bien signifier, cette dernière phrase ?
On peut la comprendre très bien en référence à un des penseurs que je trouve les plus intéressants sur ces questions, qui est Paul Sheppard, qui a développé l'idée que l'humain se constituait dans la texture de l'animalité. C'est-à-dire que pour devenir un véritable humain, il est nécessaire de pouvoir être élevé par des animaux. Nous sommes toujours élevés par des animaux dans une perspective culturelle, et ça on sait maintenant que beaucoup de populations, en observant le comportement d'animaux, ont réussi par exemple à trouver des médicaments, ou à trouver des choses à manger, ou à trouver les endroits qui étaient difficiles d'accès, ou dangereux, ou etc. Et puis à un niveau plus symbolique, à un niveau plus intérieur, j'aime bien ce terme neutre, de niveau plus intérieur, de se constituer à travers les animaux avec lesquels on vit, avec lesquels on partage sa vie. Et Sheppard met en garde en disant, mais il y a de plus en plus d'humains dans nos cultures qui n'ont jamais aucune interaction avec un animal, que vont devenir ces humains. Et il conclut en disant, je n'ai qu'un mot pour qualifier la situation qui va en résulter, c'est barbarie.
Et là, cette pensée et ce mode de pensée que vous développez avec Paul Sheppard, elle est assez fondamentale, parce que dans ces cas-là, vous retournez, vous inversez complètement les propositions issues de l'animal-machine, puisque vous exprimez à quel point l'animal nous est pas seulement utile et fondamental juste pour les interactions qu'on va avoir avec lui, mais que nous, en tant qu'humains, il va nous constituer en tant qu'humains, non pas juste par son regard, mais par le fait que nous existons ensemble tous.
C'est le passage entre un paradigme de la cohabitation, il faut vivre en paix avec les animaux, à un paradigme qui, à mon sens, est beaucoup plus fort et beaucoup plus juste, qui est il faut vivre dans les animaux.
Vivre dans les animaux. Et ça renouvelle complètement toutes nos conceptions.
Absolument, c'est le dernier chapitre sur le zoofuturisme, en fait, c'est ça.
On y arrivera après. Avant, passons par une étape, notamment, qu'on n'attend pas forcément à lire sous la plume d'un philosophe de l'éthologie, que vous êtes.
Je ne sais pas si je suis philosophe de l'éthologie, je suis un philosophe qui travaille avec des phénomènes éthologiques, mais je ne me caractériserai pas comme un philosophe de l'éthologie.
Eh bien, c'est assez flagrant dans ce chapitre où vous abordez non plus les animaux, mais peut-être d'autres formes de vivants que sont les plantes et les champignons. Et là, vous avez aussi un chapitre très très fécond où vous exprimez à quel point nous avons eu en Occident un mépris culturel problématique pour le vivant non animal, cette fois. Et si on englobe l'ensemble du vivant, c'est-à-dire en prenant en compte les plantes, y compris les champignons, vous expliquez bien que ces plantes-là ont une complexité cognitive qu'il n'est plus possible de négliger pour évaluer leur statut.
C'est un des points faibles majeurs de la posture végane, qui est d'établir de rétablir la frontière hygiénique interspécifique en la faisant passer de l'homme à l'animal à l'animal aux végétaux. C'est-à-dire que la frontière hygiénique qui isolait l'humain des autres animaux se retrouve mobilisés pour séparer les végétaux des animaux. Autrement dit, manger un animal, ou tuer un animal, ou blesser un animal, ou etc., etc., c'est mal. Alors que les plantes, ça va, quoi. C'est pas des êtres vivants comme nous. En fait, il y a toute la rhétorique du propre de l'homme qui est récupérée par les véganes, sauf qu'ils élargissent en fait la problématique du propre de l'homme en y incluant les animaux, mais c'est la même conception du monde. C'est-à-dire conception du monde dans lequel il y a ceux qui sont avec nous et ceux qui sont soit contre nous, soit en dehors de nous, et qui ne sont pas comme nous. Et ce que montrent des recherches très, très, très nouvelles depuis 20 ans, presque 20 ans maintenant, c'est que c'est pas si simple. C'est-à-dire que on commence à se rendre compte que les végétaux, les plantes, les arbres, etc., sont des formes vivantes extrêmement complexes, qui montrent potentiellement une intelligence tout à fait remarquable, etc. Pourquoi je dis potentiellement? Parce qu'en fait, il y a un problème méthodologique très, très important qui est que, suivant les définitions que vous donnez de l'intelligence, de la conscience, de cette caractéristique qu'on a tendance à mettre en avant, vous allez pouvoir inclure telle ou telle catégorie d'agents ou non. Donc de même que les humains ont mobilisé des catégories d'intelligence, de conscience, etc., pour établir une différence entre eux et les animaux, de même, les véganes, par exemple, vont développer des catégories d'intelligence, de conscience, etc., pour établir une différence entre les végétaux et les animaux. Ma position est que la situation est beaucoup plus complexe que ça, qu'il n'y a pas de ce que j'appelle il n'y a pas de posture de l'innocence. C'est-à-dire qu'il y a dans notre monde, il n'y a pas d'endroit où on peut vivre sans tuer ou sans faire souffrir. La plante a peut-être réussi à un tel exploit en se nourrissant de lumière et de sels minéraux. Ce qui me conduit à suggérer que la plante est en fait l'idéal du vegan, ce qui est un peu paradoxal, parce que c'est ce que le vegan s'autorise à manger. Et en fait, l'idéal de l'idéologie vegan, pour moi, parce que pour moi, c'est une idéologie. Et je suis très hostile, je le précise quand même, aux élevages industriels, à l'hyperconsommation de viande, etc. C'est pas là le problème. Et deuxièmement, la deuxième chose, c'est que il faut encore généraliser. C'est-à-dire que vous avez parlé des plantes, des champignons, etc. Donc essayer de penser autrement ce que peut être les caractéristiques d'intelligence ou de ça. Par exemple, c'est là où je fais l'hypothèse que le moyen de communiquer avec les champignons, c'est peut-être justement de les manger, et qu'on arrive sur les champignons psychotropes, etc. Et là, il y a aussi des choses qui sont extrêmement intéressantes, mais qu'il faut aussi élargir, et dans le livre, comme vous le savez, j'élargis encore cette éthologie philosophique que j'essaie de mettre en place, là, non seulement aux machines, et bon, j'imagine que vous allez y arriver plus tard, mais aussi aux fantômes. Qui sont aussi les grands exclus de notre culture. On est quand même la seule culture, à ma connaissance, qui refuse l'existence des fantômes et de tout ce qui va avec les esprits, etc., que j'entends génériquement par fantôme. Et ça, je pense que c'est un gros problème aussi.
Parce que ça abolit toutes les séparations que l'homme occidental moderne s'est cru avoir, cette séparation avec l'animal, et puis maintenant cette séparation avec les plantes, avec les champignons, avec les esprits, c'est-à-dire à chaque fois, il y a toujours des barrières, il y a toujours des frontières, et les savants ont toujours voulu que ces frontières soient étanches. Or,
Oui,
ce que nous découvrons...
étanche et morale. C'est-à-dire que ce n'est pas
Oui.
seulement les savants, c'est aussi les savants et j'ai envie de dire les philosophes qui traficotent avec eux. Et puis il y aura un chapitre passionnant à écrire sur le rôle idéologique justement des philosophes des sciences. C'est pour ça que je ne voulais pas être défini comme philosophe de l'éthologie.
Tout à fait. Et alors, vous, avec vos ouvrages, principalement vos ouvrages sur l'animalité, vous n'utilisez plus cette séparation. Vous essayez aussi d'avoir aussi une posture morale, mais différente, avec
Pas morale,
toutes ces
éthique.
conceptions. Alors, éthique, allez-y du coup sur cette différence.
Ah ben la différence, elle a bien été mise en avant par Foucault. Quand il caractérise l'éthique, quand il caractérise la morale comme étant ce qui établit la différence entre le bien et le mal, et l'éthique comme étant la façon dont on veut vivre.
Et
Et moi, je serais
comment?
plutôt Nietzschéen, c'est-à-dire que je suis très sceptique vis-à-vis du bien. Dans une de ses lettres, Nietzsche dit à propos de sa sœur Elisabeth, elle est portée sur le bien et moi, je suis plutôt porté sur le mal.
Et donc votre position éthique?
Ma position éthique, c'est qu'il faut apprendre à vivre avec les autres vivants, que c'est pas gagné. Qu'on n'est pas non plus dans Walt Disney, c'est-à-dire que ça c'est aussi potentiellement dangereux, violent, etc. Pour moi, un animal, c'est aussi un danger potentiel. J'ai travaillé dans les forêts à Bornéo, en Amazonie et en Afrique centrale. Je sais ce que c'est que des forêts potentiellement dangereuses. Donc l'animal peut vous tuer, l'animal peut vous blesser, l'animal est un danger potentiel. Mais c'est aussi une source de richesse énorme. Mais on n'est pas dans une dichotomie précisément morale où il y a d'un côté les bons et d'un autre côté les mauvais. On est dans un mélange qu'il faut penser comme tel et qui fait toute la richesse de la vie. Et ce que je reproche à tous ces idéologues et scientifiques qui s'acoquinent avec eux, c'est de vouloir constamment réintroduire du bien et du mal, donc de la morale. J'ai envie de dire, dans l'espace écologique.
Et alors, vous ne pensez pas sur, mais vous pensez avec. Vous
C'est
faites
ça.
toujours attention au vocabulaire, à votre syntaxe, pour être le plus juste dans la pensée. Or, toute la pensée qui a été développée par notre modernité occidentale a aussi pollué notre vocabulaire et notre syntaxe pour en parler. Et vous, à un moment donné, vous dites, je ne parle pas sur, mais je parle avec. Et alors, ça vous permet de formuler des étranges pensées, si on revient à nos plantes et à nos champignons, et une pensée qui peut être féconde, justement, comme un programme de pensée future. Vous avez cette jolie phrase: l'enjeu n'est donc pas de mieux comprendre la pensée des plantes et des champignons, donc pas mieux comprendre en soi, mais de chercher à transformer la pensée humaine par la mise en place de compromissions inédites avec ces mondes non animaux, ce qui vaut aussi pour les mondes animaux.
Tout à fait, c'est-à-dire que l'enjeu c'est de se transformer, l'enjeu c'est de changer ce qu'est l'humain, c'est-à-dire que contre ceux qui pensent qu'il y a une différence entre l'humain et l'animal, ou ceux qui pensent qu'il n'y a pas de différence entre l'humain et l'animal, et encore une fois, moi je suis dans une troisième posture, qui est précisément de considérer que il y a une intoxication réciproque des uns et des autres, et que c'est ça qui est l'intérêt majeur, enfin un des intérêts majeurs de l'animal. C'est intéressant d'ailleurs de voir que, à propos des fantômes évoqués tout à l'heure, que pour la plupart des peuplades de chasseurs-cueilleurs, l'animal est un vecteur privilégié pour avoir accès aux fantômes. Et on comprend rien à ce qu'est leur rapport à l'animal et à l'animalité si on comprend pas ça. Si on pense que l'on a simplement affaire à une proto-écologie ou à une proto-éthologie ou à une proto-zoologie. Moi, je déteste ce terme de proto parce que proto, ça veut dire que les pauvres, ils sont pas encore aussi intelligents que nous. Alors qu'en fait, c'est autre chose. La supposée proto-zoologie des Indiens amazoniens, c'est pas une zoologie qui ne s'est pas épanouie. C'est une autre façon de penser ce qu'est un animal, puisque certains animaux sont constitués un vecteur privilégié pour avoir accès aux esprits.
Et vous avez utilisé là le terme proto, on peut dire aussi ethno-botanologie.
Tout à fait.
Voilà, c'est le même problème.
C'est le même problème.
Ce terme, c'est-à-dire c'est une déconsidération, en tout cas une non-considération pour ces savoirs-là, qui ne sont pas dans nos concepts scientifiques, c'est-à-dire qu'ils sont différents de nos usages de la science et de la manière dont on peut prouver des faits ou prouver des éléments.
Ils ne sont pas encore scientifiques.
C'est une autre forme de pensée.
Ethnozoologie, c'est une zoologie qui est tellement folklorique que c'est juste bon pour les ethnologues, pas pour les zoologues.
Pas pour les zoologues, ouais. Alors, j'aimerais qu'on en vienne à un autre concept, une jolie formule. Vous parlez de pensée symbiotique. Mmh. Et avec cette pensée symbiotique, vous expliquez qu'il ne s'agit plus de construire des représentations du monde, mais de s'immerger dans des formes de pensée plus métaboliques qui ne réduisent plus l'intelligence à un pur mouvement intellectuel. Pouvez-vous nous parler de cette pensée symbiotique qu'il faudrait concevoir et utiliser?
Ben c'est la pensée incarnée et la pensée concrète, c'est-à-dire que dans les espaces intellectuels occidentaux en règle générale, et c'est massivement le cas en philosophie, la pensée c'est un processus qui est extrêmement intellectuel. Les règles pour la direction de l'esprit de Descartes, par exemple, c'est uniquement sur la façon de raisonner. La logique a constamment un rôle fondamental dans la philosophie occidentale, puisque c'est un rôle de soubassement. C'est à partir de la logique qu'on va pouvoir bien penser. Ce que je veux dire par là, avec la synthèse symbiotique, c'est que en fait, on pense non seulement avec notre corps, ce qui devient une idée qui commence à faire son chemin, mais également avec le corps des autres, mais également avec les autres, mais également dans des agencements, pour reprendre un terme un peu deleuzien, dans des agencements avec d'autres métabolismes, avec d'autres physiologies, avec d'autres façons de voir, avec d'autres, etc. Et une des pistes sur lesquelles je travaille, c'est justement de pousser à fond cette idée, de voir jusqu'où on peut aller, puisque j'ai une démarche très popérienne, de ce point de vue, c'est-à-dire je prends des hypothèses et puis j'essaie de voir jusqu'où je peux les conduire jusqu'à ce que je rencontre un paradoxe logique ou une réfutation empirique. Et donc c'est cette idée, dans cette perspective, c'est celle du philosophe génétiquement modifié. C'est-à-dire que il y a l'une des croyances massives et fondamentales de la philosophie occidentale aujourd'hui, c'est que en fait, si on On ne peut penser mieux qu'en réorganisant sa pensée, et non pas en réorganisant l'humain. C'est-à-dire l'idée qu'il y a des problèmes qui sont trop compliqués pour l'humain, trop complexes pour l'humain, du fait de sa physiologie, du fait de sa phylogenèse, du fait de ses métabolismes, et tout simplement une idée qui n'est pas discutée. C'est-à-dire que ça ne fait pas partie des idées légitimes, dont la discussion est légitime dans l'espace philosophique. Alors que c'est, à mon avis, absolument fondamental, absolument essentiel. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre d'idées, il y a un certain nombre de notions, de phénomènes qu'on ne pourra comprendre qu'à partir du moment où on pourra transformer le philosophe lui-même. C'est-à-dire que le philosophe est le premier problème de la pensée philosophique. Mais le philosophe en tant qu'animal humain, c'est-à-dire le philosophe concret, pas le philosophe abstrait, figure de rhétorique.
C'est-à-dire un philosophe qui est incarné.
Un philosophe incarné qui est plongé dans la biologie au sens littéral du terme. C'est-à-dire que, je donne qu'un seul exemple, nous avons nos récepteurs optiques sont... On a 4 récepteurs optiques fondamentaux, vous avez des cyanobactériques, on en a 28. Donc on n'est même pas dans une proximité avec les grands singes, avec les baleines, avec les dents, même avec des cyanobactéries. Donc si on arrivait à avoir 28 récepteurs photoréceptifs différents, qu'on arrive à les combiner, comment on verrait le monde? Comment voir les serpents qui ont... des cellules thermosensibles sur la tête et qui en fait vont percevoir leur environnement de façon calorique. On ne sait pas faire ça. Et comment est-ce qu'on peut penser plus vite? Comment est-ce qu'on peut penser de façon différente? On commence à se rendre compte avec l'intelligence artificielle, on va y venir je pense, qu'il y a d'autres façons de penser que celles que nous mettons en œuvre comme humains, qu'on a besoin d'aller plus vite pour pouvoir arriver à penser certaines choses.
Pourtant, vous expliquez, on est proche là d'un courant de pensée qui pourrait être qualifié de transhumaniste.
Je ne suis pas transhumaniste.
Mais pourtant du tout, puisque vous vous êtes aperçu que le transhumanisme n'a rien à faire d'un monde avec d'autres entités vivantes, n'a rien à faire d'un monde avec des animaux.
Non, il y a une caractéristique frappante du transhumanisme, ce qui est un mouvement américain post-humain, c'est précisément que tous les êtres vivants non humains disparaissent. C'est-à-dire qu'ils veulent, se... Ils ont deux espérances fondamentales plus une. Vous allez voir pourquoi je dis ça plus une. La première, c'est de vaincre toutes les maladies. La deuxième, c'est de vaincre la mort. Et pour vaincre les maladies et la mort, l'une des stratégies qu'ils proposent, c'est de se télécharger dans des machines. Donc on peut se poser la question de savoir ce que ça veut vraiment dire, mais c'est... l'idée de se projeter dans la machine. Donc en fait, il développe une conception de l'humain comme pacte avec la machine, très différente de la conception de l'humain qu'on a de façon générale et universelle chez les humains jusqu'à présent, qui est le pacte avec l'animal, comme le dit très bien Shepard. Et franchement, de vous à moi, ne plus vouloir être malade et ne plus vouloir mourir, c'est quand même petit, quoi. C'est vraiment des fantasmes de retraités. Moi, ce qui m'intéresse, c'est autre chose, c'est justement de pouvoir penser comme une cyanobactérie qui a 28 types de photorécepteurs différents. C'est de pouvoir voler comme un goéland, c'est de pouvoir nager comme un poisson, c'est de pouvoir, autrement dit, expérimenter l'espace du vivant de façon très différente de celle que peut me permettre mon statut d'humain, et de revenir sur mon statut d'humain à partir de ça.
Avant de continuer à développer tout ce que vous venez de dire, Dominique Lestel, j'aimerais un retour en arrière avec l'animal et ce chapitre qui a fait... Enfin, avant, vous avez fait un livre qui s'appelle « L'animal singulier ». Mmh. Et à partir de ça, on va pouvoir repartir sur ce que vous venez d'expliquer. Avec l'animal singulier... On comprend aussi, dans ce chapitre, avec la pensée que vous développez sur l'animal singulier, que le concept, la notion d'espèce, est problématique aussi. Elle est problématique parce que, vous avez cet exemple, par exemple, avec un pigeon. Le cas des pigeons qui habitent aux frontières de l'espèce et ceux qui habitent en son cœur. C'est-à-dire que la science exclurait la singularité animale. Il pourrait y avoir des pigeons d'exception, il pourrait y avoir un chimpanzé d'exception, d'ailleurs vous en
Il y
parlez,
en a,
ou un
il y en a.
orang-outan à la ménagerie à Paris, qui une femelle qui est capable de faire des nœuds extraordinaires, alors que son congénère mâle à côté n'y arrive pas du tout, et que normalement, vous expliquez que l'espèce globalement des orang-outans ne
Ne
serait pas
sait
en
pas, ne sait
capacité
pas
de
faire
faire
les
des
nœuds.
nœuds. Pourtant, elle, cette femelle-là, localisée à Paris, avec peut-être aussi le contact avec l'humain, et vous expliquez bien que c'est pas pour ça que ça la pollue, quoi. C'est qu'il faut arrêter avec ces histoires de pollution, c'est-à-dire de se dire le chercheur influe sur cet animal. Bah, bien entendu, c'est une évidence,
Évidemment.
et donc il faut l'accepter en tant que tel. Néanmoins, cet orang-outan-là, et alors on peut passer le saut, enfin sauter, c'est-à-dire dire cet individu-là, presque cette personne-là, peut-être encore avec des parenthèses et des guillemets, a développé une capacité qui dépasse son espèce parce que ce serait un animal singulier.
Alors, sur les termes dans ce livre sur l'animal singulier, j'établis une différence précisément entre sujet, individu, personne, en disant que tous les animaux sont des sujets au sens phoenoxkélien du terme, c'est-à-dire sont capables d'avoir un rapport subjectif à leur environnement, que certains animaux sont des individus au sens où ils ont une conscience de soi qui est particulière, par exemple chez les chimpanzés, les baleines, les dauphins, etc., beaucoup d'oiseaux, etc. Et puis, quelques-uns sont des personnes, mais en contact avec des humains. C'est-à-dire que la notion de personne, c'est une catégorie, j'ai envie de dire, une catégorie contaminante avec l'humain, qu'on attrape avec l'humain. C'est comme le Covid, c'est un truc qu'on attrape avec l'humain, ça. Et donc l'animal singulier, en fait, c'est un animal qui pose un problème méthodologique et épistémologique que je trouve formidable, parce que c'est l'animal qui ne se comporte pas comme il devrait se comporter compte tenu de l'espèce à laquelle il appartient. Et je trouve faramineux que ni les zoologues, ni les philosophes se soient intéressés à cette question avant moi. C'est-à-dire qu'il y a plein d'animaux qui ne se comportent pas comme ils devraient se comporter. Alors, vous avez parlé de la contamination avec l'humain. Donc, on a effectivement mis en place toute une batterie j'ai envie de dire, de protection, qui permettent de ne pas voir ça. Par exemple, cet orang-outan qui fait les nœuds, on va dire, ah mais c'est les gardiens du zoo qui l'ont incité à faire les nœuds. Bon d'accord, je viens. Mais pourquoi elle, et puis pas le mâle qui ne réussit pas à faire les nœuds et qui veut les faire. Et deux, pourquoi pas les autres orang-outans. Et puis troisièmement, un enfant qui fait des nœuds, bah, il apprend aussi en regardant comment les. Donc pourquoi est-ce que l'orang-outan ne pourrait pas faire pareil? C'est quoi ces raisonnements qui en fait sont fondamentalement des raisonnements foireux quand même. Alors que la notion d'animal singulier est intéressante parce qu'elle montre que la notion d'espèce est en fait très inconsistante. Et en fait, comme vous le savez, en biologie, la notion d'espèce, elle est pas seulement inconsistante, elle est totalement évanescente. C'est-à-dire que il n'y a pas deux biologistes qui sont capables de se mettre d'accord sur ce qu'est une espèce. En 2000, je crois que c'est en 2000, en 2003, il y avait, ou en 2005, je sais plus, enfin, il y avait 23 définitions différentes de l'espèce. C'est-à-dire que l'espèce est un phénomène qu'aucun biologiste n'est capable de définir de façon consensuelle. La seule conclusion qu'on peut en tirer en toute rigueur, c'est que l'espèce n'existe pas. C'est un fantasme. Et donc que toutes ces discussions sur la façon de transgresser les espèces, etc., des différences entre espèces, à partir du moment où où la notion d'espèce est une notion inconsistante, qu'est-ce que ça veut dire? Alors d'un autre côté, quand vous avez à côté de vous un pigeon, vous voyez qu'il y a quand même une différence entre vous et le pigeon. Et donc la difficulté, qui est rarement vue comme telle, et même, à mon sens, quasiment jamais vu comme tel, c'est qu'il y a une différence entre l'humain et les autres animaux, mais que ce n'est pas une différence qui va être pensable à travers une notion comme celle d'espèce. Et là, je pense que les véganes, avec leur notion d'antispécisme, etc., sont complètement à côté de la plaque. Parce qu'ils se focalisent sur un phénomène imaginaire.
Donc, ce serait encore à introduire de la séparation.
C'est ça.
Mais alors, comment on fait?
Ben, je pense qu'il faut inventer. Je pense que la philosophie, nous l'avons inventée, mais la philosophie dans nos pays, en particulier en France, avec cette espèce d'abomination gluante qui est l'agrégation de philosophie, est très hostile à l'innovation. En France, la philosophie est plutôt tournée vers, à quelques exceptions près, il y a des exceptions hein, tout à fait brillantes et remarquables, mais à quelques exceptions près, la philosophie française est quand même tournée vers l'histoire de la philosophie, c'est-à-dire pas vers l'innovation, mais vers la répétition de ce qui est. Et là, on est dans une situation qui est quand même une situation exceptionnelle de rupture majeure, qui, à mon sens, n'est comparable que à la rupture entre le paléolithique et le néolithique. Enfin, c'est cet ordre de grandeur-là, et même peut-être plus, parce qu'avec les nanotechnologies, biotechnologies, on arrive à modifier maintenant le réel lui-même, avec les univers aussi dits virtuels. Je pense que là, il y a un espace à penser pour la philosophie qui est extraordinaire. C'est extraordinaire, c'est formidable pour un philosophe de vivre maintenant, parce qu'il y a tellement à penser, tellement à inventer, il y a tellement de choses sur lesquelles il faut revenir, on va plutôt faire de l'histoire de la philosophie si vous êtes un philosophe universitaire. Et si vous ne le faites pas, je ne critique pas, parce que si vous ne le faites pas, vous avez des vrais ennuis disciplinaires, dans les deux sens du terme.
Parce que cette pensée avec des animaux singuliers, elle permet aussi une autre manière d'écrire. Je pense toujours à votre souci d'employer les bons mots, d'avoir une langue adaptée à votre propos. Et puisque vous évacuez cette manière de faire, cette manière de penser, ces anciennes conceptions de l'animal-machine, vous êtes bien obligé, pour penser nouveau aussi, d'utiliser un vocabulaire, une langue qui soit aussi nouvelle pour pouvoir le dire. Et alors, vous expliquez que l'animal singulier permet de raconter des histoires, de faire récit, c'est-à-dire d'écrire des histoires, de faire narration qui donne une place à la multiplicité des significations. Ce serait la belle expression d'Anat Singh que vous relevez, s'immerger avec passion dans les vies des non-humains. Mmh. Et là, ça permet de faire à nouveau frais récit et histoire.
Ben, histoire, c'est, vous savez, en français, faire des histoires, ça a deux sens. Hein. Et les deux sens sont bons, là. C'est-à-dire que c'est dans la réunion des deux sens, de faire des histoires, c'est-à-dire d'écrire des histoires et de faire des histoires, c'est-à-dire de créer des problèmes, qu'il faut revenir. Il faut réintroduire des structures narratives dans une discipline comme l'éthologie. Moi, je pense que l'un des problèmes de l'éthologie, c'est qu'elle se pense comme une branche de la biologie au lieu de se penser comme une branche des sciences sociales telle qu'elle devrait se faire.
Oui, puisque vous cherchez à... mon terme est peut-être impropre, mais à influencer les éthologues dans leurs expériences, ouais. Notamment, et en renouvelant ou en désinguant leur postulat. Ça, c'est la fin de votre texte sur l'animal singulier, qui pose un problème, écrivez-vous, aux spécialistes de l'animal, donc les éthologues, et qui déstabilise trois postulats. Ces trois postulats, il y aurait le premier qui serait le meilleur scientifique et celui qui interfère le moins possible avec ses sujets d'observation. Mmh. Et là, nous en avons déjà un petit peu parlé avec le terme de pollution.
Oui, puis c'est aussi sous cette idée de ne pas vouloir perturber l'animal, il y a cette idée beaucoup plus problématique de ne pas vouloir rentrer en relation avec l'animal. C'est-à-dire que si moi je vais dans un pays étranger et que je veux observer les autochtones, je ne vais pas faire comme si je me cachais. Je vais interagir avec eux. L'anthropologue, il établit des liens avec les populations qu'il veut étudier. Et il ne dit pas qu'il perturbe les populations qu'il veut étudier. Alors, il les perturbe, évidemment. Mais il les perturbe comme toute relation sociale. Et avec l'animal, c'est exactement la même chose. D'ailleurs, les animaux sont extrêmement... sont souvent très très curieux de ces humains qui viennent les étudier, et c'est pas une perturbation, c'est normal. Et beaucoup d'animaux vont transformer leur comportement en fonction de l'homme, mais c'est pas non plus un problème méthodologique, c'est simplement une caractéristique de leur comportement qui est de tenir compte des autres dans leur environnement, c'est normal. Il y a cette très belle expérience d'une spécialiste des primates anglaise qui montrait que quand elle étudiait des petits primates dans la forêt, dans une forêt, je crois que c'est une forêt africaine, Les aigles, qui avaient l'habitude d'aller les récupérer, se méfiaient parce ils avaient bien repéré la primatologue. Comme on dit communément, ils ne le sentaient pas bien. Et donc, ils fichaient la paix aux petits singes. Et donc, effectivement, donc et les petits singes avaient parfaitement compris que d'être avec la primatologue, ça les protégeait des rapaces qui voulaient les attraper. Mais c'est une relation normale, c'est pas une perturbation du comportement, c'est une relation normale. Les petits singes ont compris qu'en faisant une espèce d'alliance avec la primatologue, ils se protégeaient des rapaces.
Le deuxième postulat des éthologues, donc des spécialistes des animaux, que vous pensez être, enfin qui doit être mis à mal, c'est celui de l'animal sauvage. C'est-à-dire que seul contrer l'étude de l'animal, non seulement sauvage, mais le plus sauvage. Mmh. Et alors, ça change les questions que les éthologues, les spécialistes de l'éthologie, posent aux questions que vous écrivez. Le chercheur non seulement pose des questions de rat au rat, des questions de pigeon au pigeon, et non des questions d'humains aux uns et aux autres, mais pose seulement des questions de rat sauvage à tous les rats, et des questions de pigeon sauvage à tous les pigeons.
C'est l'idée que l'éthologie fondamentalement, même si c'est en train de changer, mais que l'éthologie fondamentalement c'est l'étude de l'animal sauvage, parce que c'est le seul qui peut être saisi dans toute sa pureté. C'est-à-dire qu'il n'a pas été contaminé par l'humain. Tout se tient en fait. Donc l'animal qui vit dans les espaces humains en fait sont totalement contaminés par l'humain, donc on ne peut plus reconstituer bien la phylogenèse de leur comportement, les stratégies naturelles qu'ils emploient, etc. Vous savez, quand j'ai travaillé avec les Maasai au Kenya il y a quelques années sur les rapports homme-animal sur les hauts plateaux kenyans, et ils avaient des téléphones portables. Et en fait, ils cachaient un peu leur téléphone portable. Je leur ai dit, mais écoutez, c'est pas la peine, j'ai vu que vous en aviez, quoi. C'est bon, quoi. Ça, je ne porte aucun jugement. Donc, ils étaient avec leur tenue habituelle, qu'on peut considérer comme folklorique, mais qui n'est pas folklorique, avec les jupettes et tout. Entre parenthèses, qui sont d'ailleurs toutes made in China, qui est quand même intéressant. Et ils sont dans le téléphone portable. Que fait un Maasai avec un téléphone portable dans la brousse?
Il regarde des vidéos sur YouTube?
Non.
Il se géolocalise?
Ouais. Il essaie de géolocaliser l'autre. T'es où? Je suis là. Où? Voilà. C'est-à-dire que, en fait, c'est comme dans Paris, c'est le même type de truc. Alors, est-ce que les Maasai sont pervertis parce qu'ils utilisent des téléphones dans la brousse, ou qu'ils sont vêtus avec des tenues traditionnelles made in China? Non, je pense pas. Je pense qu'il y a une adaptation au monde. C'est comme ça que la vie a toujours fonctionné.
Troisième postulat que l'animal singulier met à mal chez le spécialiste de l'animal, c'est tout comportement de l'animal est explicable en termes de cause et non en termes de raison, parce que l'animal appartient au royaume de la nature, selon ces spécialistes de l'animal, et non à celui de la culture.
C'est la grande différence nature-culture, hein, qui est prégnante, qui est fondamentale dans notre culture, qui est d'établir justement ces deux grands espaces, qui seraient l'espace de la nature et l'espace de la culture, en s'intéressant pas trop aux frontières, aux interfaces, à ce qui se passe, à la friction entre ce que nous on appelle nature et ce qu'on appelle culture. Alors on sait depuis maintenant quelques décennies que beaucoup d'animaux ont des comportements culturels, c'est-à-dire des comportements qui ne sont pas directement biologiques, mais qui se transmettent de groupe en groupe à travers les générations. Maintenant, c'est des comportements culturels, ce ne sont pas non plus des comportements culturels comme ceux qu'on va voir dans beaucoup de cultures humaines. Mais ce n'est pas choquant, c'est-à-dire qu'il peut y avoir beaucoup d'animaux peuvent avoir des comportements culturels sans que ce soit des comportements culturels de même nature, si j'ose dire, que les comportements culturels humains.
Alors comment penser? Comment penser avec la fin de ces conceptions, notamment de séparation? Et vous avez cette intuition, issue de vos recherches, qu'il faudrait passer d'une éthologie de l'animal à une ethnologie de leur société. Ce passage de l'éthologie à l'ethnologie, mais pour les sociétés animales, de même que les ethnologues étudient les sociétés humaines, les plus variées, eh bien, ça serait la fin de l'éthologie et l'éthologue se ferait ethnologue des sociétés animales.
Alors, c'est une idée que j'ai proposée au début des années 2000 et l'article qu'il proposait dans une revue scientifique américaine est d'ailleurs devenu une espèce de best-seller. L'idée de développer enfin des ethnologies des sociétés animales. Pas seulement considérer que les animaux avaient des cultures, etc., mais vraiment faire des ethnologies des sociétés animales comme les humains font des ethnologies, comme les anthropologues font des ethnologies des sociétés humaines. Alors l'enjeu de ça, c'est que il ne s'agit pas de, au départ, il ne s'agit pas de trouver des différences entre société humaine et société animale de façon un peu abstraite, mais d'employer la même méthodologie. C'est-à-dire pas se poser la question de savoir quelles sont les différences entre les unes et les autres, mais d'employer les mêmes méthodologies pour les unes, pour étudier les unes et les autres, et de voir jusqu'où on va, jusqu'où on peut aller, avec des difficultés qu'il faut penser, qu'il faut résoudre, comme par exemple la difficulté qu'il n'est évidemment pas possible d'interviewer un animal, alors que les anthropologues peuvent interviewer les humains qu'ils observent. Mais on peut retourner le problème en disant que ce n'est pas forcément un avantage, ça peut être un inconvénient, parce que l'humain interviewé peut raconter ce qu'il veut à l'anthropologue et le tromper. Au moins l'animal ne va pas s'engager sur cette piste.
Avec votre analogie avec l'anthropologue s'intéresse beaucoup au mythe, à la vie spirituelle de ces hommes qui vivent dans d'autres sociétés que notre société occidentale moderne. Et alors, vous avez cette analogie avec l'animalité et la dimension spirituelle de l'animal que nous ne comprenons pas. Vous écrivez dans L'animal et l'avenir de l'homme, que savons-nous vraiment des spiritualités animales ? Nous n'en savons rien.
Non.
Et ça, est-ce que c'est une possibilité de recherche ou est-ce que c'est quelque chose qu'on ne pourra jamais connaître ?
Oui, une possibilité. Je pense que c'est une possibilité de recherche. Mais à développer avec des méthodologies nouvelles. C'est un champ de recherche nouveau, à mon avis, qu'il faut mettre en place, qui est de se demander dans quelle mesure est-ce que les animaux sont en particulier en contact avec des fantômes, hein, ce que j'appelle les fantômes de façon générique. J'avais un ami à Tokyo qui avait un chien végétarien, un grand chien végétarien. Et il me disait, donc c'est bizarre un chien végétarien, parce que c'est un carnivore un chien, et il me disait, mais comme il est végétarien, mon chien voit les fantômes.
Ça serait une explication à son végétarisme.
Non, ce serait une conséquence.
Ça serait une conséquence.
Mais c'est lui, c'était la conséquence.
Ouais, c'était la conséquence.
Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il était convaincu, à tort ou à raison, je ne sais pas.
Mais comment prouver
que son chien voyait les fantômes ?
Comment prouver qu'il a tort ?
Ben, je pense que c'est là où il y a d'autres démarches intellectuelles, pas forcément scientifiques d'ailleurs, à suivre, qui est, si votre chien voit des fantômes, en fait, ce qui serait bon, c'est que vous arriviez à voir les mêmes fantômes que lui, puis à faire une communauté de perception entre votre chien, les fantômes et vous, et de réussir à pouvoir, comme ça, peut-être pas avoir les mêmes fantômes, mais tout au moins pouvoir installer dans votre communauté partagée des fantômes ou des parties de fantômes, c'est des champs de recherche qui non seulement n'existent pas, mais en plus n'appartiennent encore à aucune discipline constituée.
Est-ce que ça serait par exemple faire intervenir un chaman ? Ça pourrait être le propre du chaman en Sibérie ou en Amazonie.
Alors le chaman va intervenir justement sur les esprits, va établir des contacts comme une entremetteuse. Ça peut être aussi l'usage de drogues psychotropes, ça peut être l'usage de techniques d'extase, ça peut être etc. Je pense qu'on a une vision qui est, nous autres occidentaux, on a une vision qui est très très sommaire de ce que sont ces pratiques, parce qu'on je pense qu'on les a on les a mis un peu trop rapidement dans l'espace du religieux, et que l'espace du spirituel déjà et l'espace du religieux, c'est pas la même chose.
Alors tout au long de votre texte, de vos livres que je lis, qui sont pour moi stupéfiants parce qu'ils me font découvrir une autre forme de pensée, quelque chose me gêne, Et c'est l'emploi de ce terme animal, l'animal, les animaux. Sachant que vous faites très attention à l'usage des termes, je retrouve le même terme employé aussi par Vinciane Després, par exemple. Et vous êtes vraiment les deux personnes qui développaient une pensée sur l'animalité qui me captive et qui me stimule énormément. Or, vous, Dominique Lestel, vous employez le terme animal. Alors même que ça fait 20 ans que vous développez une pensée très innovante, je pense à votre livre Les origines animales de la culture, notamment à cette postface de 2003 qui s'appelle Dissoudre la nature dans la culture, où vous posez des constats vraiment très innovants sur les nouvelles conceptions qu'on devrait adopter vis-à-vis de cet grand autre qu'est tous les animaux. Le problème que je rencontre, c'est cet usage, mais je ne sais pas par quoi le remplacer, du terme animal. Serait animal toutes les formes vivantes non végétatives qui seraient différentes, qui seraient autres que l'homme. Comment nommer, si ce n'est dire ce chien-là, ce pigeon-là, comment utiliser un autre terme pour qualifier tous les autres qui seraient les animaux ?
Ben, comme vous l'avez, comme on l'a vu précédemment dans l'entretien, en fait, la question, c'est pas simplement l'animal. C'est vraiment les autres qu'humains. Et j'aime bien cette expression de l'anthropologue Hallowell dans les années de 1960. Il parle d'autres qu'humains et non de non-humains. C'est-à-dire que
autre qu'humain,
on est dans un espace d'ouverture qui est très, très intéressant. Et Hallowell avait eu un problème parce que, très intéressant parce que c'était précisément un de ces ethno-scientifiques dont on a parlé au début. Et donc il travaillait avec les Indiens, les Indiens des plaines. Et donc il faisait des questionnaires comme la discipline a l'habitude de le faire. Et il a demandé à son informateur et les pierres, donc il cochait les cadres, et les pierres, est-ce que c'est vivant ou est-ce que c'est pas vivant? Et l'informateur lui a répondu, lui a donné une réponse qui a complètement estomaqué l'anthropologue. L'informateur lui a répondu, bah ça dépend. Mais ça dépend de quoi? Bah, ça dépend. C'est pas si simple. Il y a des pierres qui sont vivantes et puis des pierres qui sont pas vivantes et puis il y a des pierres qui sont vivantes quelquefois mais pas toujours. Et là on sentait que ça brouillait complètement toutes ces catégories. C'est-à-dire que c'est pas simplement que le vivant et le non-vivant n'étaient pas définis de la même façon, c'est que la catégorie même de vivant et de non-vivant ne fonctionnait plus de la même façon, puisqu'on pouvait être de temps en temps vivant, par exemple. Ça, c'est une chose qui est complètement impensable pour nous. Il y a soit le vivant d'un côté, soit on est vivant, soit on n'est pas vivant. Mais on n'est pas de temps en temps vivant, c'est un truc qui ne va pas, quoi. Ça ne fonctionne pas dans notre culture. Et donc, et c'est ce type de notion, à mon avis, qu'il va falloir acclimater, qu'il va falloir reprendre, qu'il va falloir revoir. Et on n'a pas encore tout vu, parce que, par exemple, avec la découverte des exoplanètes, découverte récente des exoplanètes, les évaluations qui sont faites des exoplanètes, hein, je ne sais pas si vous avez en tête les évaluations qui sont faites, évaluations données par un astronome anglais il y a quelques années, c'est qu'il y a 100 milliards, il évalue à 100 milliards le nombre d'exoplanètes dans notre seule galaxie, parmi lesquels environ 9 milliards de planètes qui seraient de conditions géophysiques voisines de celles de la Terre, c'est-à-dire sur lesquelles il peut se développer du vivant tel qu'on le connaît, et il y a 1 000 milliards de galaxies. Ça commence à faire beaucoup de... En termes de probabilité, on est dans les grands nombres, là. C'est-à-dire que la question n'est plus de savoir s'il existe des civilisations extraterrestres, mais plutôt si on s'en tient toujours aux probabilités, où elles sont. Et ce qu'elles sont.
Et ça renouvelle considérablement toute la pensée.
Je pense que ça devrait renouveler considérablement toute la pensée. Et la rencontre avec les premières civilisations extraterrestres sera tout à fait catastrophique au sens du tome. C'est-à-dire ça changera complètement nos conceptions du monde.
En attendant, actuellement, on peut déjà se mettre à penser avec des artefacts, et vous utilisez cette expression de communauté hybride homme-animal-machine. C'est là où vous prévoyez prochainement peut-être des grandes avancées conceptuelles pour la philosophie, c'est de réfléchir, de penser avec ces communautés hybrides homme, animal, machine, et que les trois ensemble pourraient donner des nouvelles conceptions.
Oui, je pense qu'il faut, il faut penser l'animal, mais aussi le végétal, en même temps que les machines. Et qu'on a des machines qui sont en train de devenir tout à fait étonnantes, et qu'on a des approches qui sont un peu... Comme l'éthologue avec l'animal, c'est-à-dire des approches qui sont un peu restrictives par rapport à la richesse du phénomène. On a des machines extraordinaires, et avec les nouvelles techniques de programmation qui sont en train d'être mises au point depuis quelques années, depuis peu d'années d'ailleurs, on n'est pas sorti de l'auberge, parce qu'on a des techniques de programmation qui ont deux caractéristiques totalement dévastatrices. La première, c'est qu'elles sont très efficaces, et la deuxième, c'est qu'elles sont totalement opaques. C'est-à-dire que la programmation en termes de réseau de neurones, ce qu'on appelle en anglais deep learning, qui consiste non pas à apprendre quelque chose à une machine, mais à donner à une machine les moyens d'apprendre quelque chose, ce qui n'est pas du tout pareil, c'est très efficace. Donc on arrive à des résultats comme par exemple devenir champion du monde de Go, qui était inespéré. Moi, quand j'ai commencé à m'intéresser à l'intelligence artificielle dans les années 80, on espérait pouvoir faire un programme qui batte un champion du monde d'échecs. On n'en était pas sûr, mais ça, c'était... Mais le Go, c'était définitivement en dehors de toute portée. Et donc, on arrive à des résultats qui sont tout à fait extraordinaires et inattendus. Et en plus, deuxième problème, on ne sait pas comment la machine arrive à faire ça. Et la machine qui bat au Go le champion du monde, c'est pas non plus qu'elle a fait du moulinage aveugle, brut, industriel, et pas intéressant. Elle a inventé un coup génial. Le, je sais pas, 31e ou 33e, enfin aux alentours de ces coups-là, que fait la machine, c'est un coup génial. C'est ce qui l'a fait gagner. C'est-à-dire, quand la machine fait ce coup-là, tout le monde se dit, elle a perdu. Sauf que c'est le coup qui l'a fait gagner. C'est un coup qui n'a jamais été imaginé par un humain et qui l'a fait devenir champion du monde de Go. C'est pas rien. C'est un traumatisme en Asie, vous imaginez.
C'est devenu une machine singulière. Qu'était pas capable.
Ce sont des machines singulières. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de machines pareilles. C'est-à-dire que du fait de ce type d'apprentissage, on a des machines qui en fait sont irréductibles les unes aux autres. Donc elles ont des modes de fonctionnement qui sont similaires, mais elles ne fonctionnent pas de la même façon.
C'est le chimpanzé du jardin d'acclimatation, ouais, c'est à Paris qui invente, qui fait des nœuds. Quoi.
C'est les humains, vous et moi, on est construits pareil, sauf qu'on ne fonctionne pas pareil. Ouais. Et donc c'est très intéressant, parce que la question, pour un philosophe comme moi, c'est fascinant. Parce que la question, c'est qu'est-ce qu'on... Du coup, c'est quoi ? C'est quoi une machine ? C'est quoi une machine ? Et qu'est-ce qu'on peut faire avec ? Et en quoi, nous, humains, on va se transformer ? Parce que ce qui marche... C'est aussi une de mes hypothèses fondamentales. Ce qui est vrai avec les animaux dans une perspective shepardienne, elle est effectivement généralisable, c'est-à-dire avec les végétaux, mais aussi avec les machines. C'est-à-dire qu'en construisant, en concevant des machines tout à fait originales comme celles dont je vous parle, on est en train de transformer ce que signifie être humain. C'est un des enjeux majeurs de ce qui est en train de se passer.
Merci beaucoup, Dominique Estelle. Merci.
Merci.